Les plus belles rencontres sont toujours inattendues. Elles peuvent parfois changer le cours de votre vie.
La belle rencontre d'aujourd'hui, c'est une invitée récente de l'émission Aéropage qui en est l'initiatrice. En effet, quand Arlette Daumont est venue nous parler des couteaux dans l'eau, nous avons abordé la décennie noire en Algérie et quand je lui ai avoué mon ignorance, elle m'a immédiatement parlé de l'homme que nous allons rencontrer aujourd'hui. Bonjour Bachir Dak.
Bonjour.
Première question dans cette maison, c'est un peu une coutume dans cette émission qui s'appelle Une belle rencontre. C'est quoi pour vous une belle rencontre, Bachir Dak ?
C'est une rencontre qui nous permet de partager un moment particulier et donc d'enrichir nos connaissances et peut-être même de les confronter à d'autres.
Vous avez une vie riche en rencontres associatives. Les rencontres en général, vous en avez fait beaucoup qui vous ont enrichi dans la vie ?
Oui, oui. Moi, je suis militant associatif depuis plus de 40 ans. Vous avez vu le jeune homme qui est sorti tout à l'heure, ça m'a ramené à
quelques années
ans.
En arrière.
Ah oui, oui, oui.
On va parler déjà un peu de vous. Vous êtes juriste, docteur en droit, traducteur assermenté basé à Montpellier et vous avez une véritable expertise et une expérience dans la traduction en langue arabe. C'est un peu court pour parler de vous. Vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Oh, j'étais aussi avocat à Alger, au bord d'Alger. J'étais enseignant à l'université, aussi bien en Algérie qu'ici à Montpellier quand je suis arrivé. Et depuis, donc, j'ai mélangé aussi bien les responsabilités au niveau des associations, comme l'ASTM, dont j'ai fini par être président, donc l'association de solidarité avec les travailleurs migrants, qui a été dissoute en 2013 et dont elle a été directrice d'ailleurs pendant un moment.
Et alors quand Bachir Dila était directrice, je suis ravie d'avoir dans le studio son épouse Latifa. Voilà, c'est pour ça qu'il parlait de ça.
Oui, parce que c'est un couple qui fonctionne depuis 50
voilà,
ans.
Voilà, c'est bien. J'ai bien compris que voilà. Jamais l'un sans l'autre, ou pas très loin. Voilà. Allez-y, Bachir, je vous ai interrompu.
Voilà, donc je dis, j'ai surtout été un militant associatif. Hein, j'oublie mes casquettes d'avocat, mes casquettes de prof d'université, tout ça. Mais j'ai toujours été effectivement très attiré par l'action associative et l'action citoyenne.
Et vous êtes arrivé en France quand ?
Revenu en France en 1993.
D'accord.
On était là de 1978 à 1982. Une fois fini nos études, on est rentré en Algérie, tout content de repartir en Algérie. Et on a dû revenir 11 ans après, en 1993 ici. Voilà.
On va comprendre pourquoi en plus. Vous êtes aussi l'auteur de plusieurs ouvrages, dont deux que vous m'avez amenés ici. Un qui est très mis en avant sur Internet, c'est « Les Algériens, le rire à la politique », de 62 à nos jours, avec une préface de Boualem Sansal et une postface d'Elisabeth Perregaux et des illustrations de Ali Dilem. C'est disponible aux éditions Frantz Fanon. Et puis, un autre titre, vous avez eu la gentillesse de dire oui, Nathalie. Donc, je vous inviterai pour en parler plus longuement sur le système politique et la vie associative en Algérie. L'étrange modèle d'une démocratie sans citoyens, toujours aux éditions Frantz Fanon. L'écriture, c'est des essais ou est-ce que, par exemple, vous auriez été un jour tenté par le roman ?
Non, non. Non, non, je suis plutôt un essayiste et tout. Plutôt un essayiste, pas... Non, je ne me sens pas l'âme d'un écrivain, pas du tout.
Bachir, on va rentrer dans le cœur du sujet et en nous parlant tout de suite de cette décennie noire qui est aussi appelée décennie du terrorisme, année de plomb, année de braise. Alors moi, je mettais plutôt ça avec l'Allemagne ou avec l'Italie, ces termes-là, année de plomb, année de braise. Donc la guerre en Algérie, la décennie noire, alors la définition, et ça va vous faire réagir tout de suite, c'est une... Vous réagissez juste à la fin de la phrase. La guerre algérienne ou décennie noire est une guerre civile qui oppose entre 92 et 2002 le gouvernement algérien disposant de l'armée nationale populaire et divers groupes islamistes. Ça, c'est Wikipédia.
Alors, c'est une erreur monumentale. Il n'y a jamais eu de guerre civile dans le sens où il n'y a jamais eu pendant cette période-là un affrontement direct entre des ethnies différentes, entre des régions différentes, et avec une espèce d'affaiblissement du rôle central de l'État. Bien au contraire, il n'y a jamais eu d'affrontement, ni ethnique, ni rien du tout, ou régional. Et surtout, l'État algérien n'a jamais faibli pendant cette période-là. Donc c'est une, comme dit Omar Carlier, qui est un historien qui connaît bien l'Algérie, dit que c'est une guerre d'un type très particulier. Ce n'est pas du tout une guerre civile.
C'est bien parce que c'est incroyable, quand on tape décennie noire, on ne tombe que sur une définition de guerre civile. C'est incroyable. C'est quoi l'intérêt ? C'est pour aller plus vite ?
C'est une paresse intellectuelle, simplement. Et puis les gens ne connaissent pas, effectivement, le contenu des luttes qui se sont qui ont eu lieu pendant cette période-là. Il n'y a jamais eu d'affrontement. Prenez une guerre civile classique, Nicaragua ou n'importe où, n'importe quel autre pays, ou l'Espagne, etc. Vous avez des affrontements politiques ou des affrontements ethniques, des affrontements régionaux. Ce n'est pas du tout le cas.
Vous allez nous expliquer plus longuement, justement, de comment a été mener cette guerre. Mais déjà, sa temporalité, Bachir, de quand à quand exactement vous, quand on en a parlé un petit peu au téléphone, vous situez le point de départ le 5 octobre 88, donc, où les quartiers populaires de Bab El Oued à Alger s'embrasent, les voitures brûlent, les magasins sont vandalisés, ces émeutes ne portent pas à leur début de revendications politiques et qui ça inaugura comme un processus de transition démocratique en Algérie. Donc plutôt que de lire un article complet de Wikipédia, comme j'ai la chance de vous avoir en studio, j'aimerais que vous nous disiez tout ça dans l'ordre.
Oui, la période voilà. Elle-même, on va la classer entre 1991 et 2001. En gros, hein, pour faire justice à toutes les thèses. Hein. Maintenant, le 5 octobre 88, c'est autre chose. C'est une insurrection qui a eu lieu, que personne n'attendait. Certains disent que ça a été un peu manipulé. Mais enfin, il y a eu un affrontement terrible entre des jeunes Algériens et leur armée. Et l'armée a tiré. C'est la première fois depuis l'indépendance que l'armée tire sur sa population. C'est un traumatisme très très fort dans l'histoire de l'Algérie contemporaine. Et donc immédiatement, pour calmer un peu la colère du peuple, il y a des réformes importantes qui ont lieu. Et donc nous sortons de cette période glaciaire de 62 à 88, où il y avait un parti unique, où il y avait une presse unique, hein, et où il y avait un régime autoritaire, pour ne pas dire tyrannique. Hein. Et
donc, c'est qui le chef d'État à l'époque?
C'était Boumediene. Boumediene était mort depuis 1979. Mm. Après, vous avez Chedli Bendjedid qui a pris la suite de 79 à 91, jusqu'à janvier 92, le jour où il a dû partir. Mais enfin, ce qui se passe après le 5 octobre, c'est important, parce que nous avons subitement des grands journaux indépendants qui font de l'information, qui font de l'investigation, hein, qui expriment le sentiment... des Algériens, des enquêtes, des investigations, des opinions. C'est important, ça. Parce qu'avant, il n'y avait rien. Avant, vous aviez un journal qui sortait tous les jours. C'était un peu notre Pravda à nous, quoi. Et vous avez des partis politiques. Partis politiques, vous avez de tout. Et malheureusement, c'est ça qui est important pour expliquer la décennie dont on va parler. Il y a un parti islamiste qui est agréé par le nouveau régime donc de 1989. Alors que la Constitution, qui venait d'être promulguée au lendemain du 5 octobre, disait qu'il ne pouvait pas y avoir de parti politique à connotation religieuse et régionaliste aussi. Donc personne ne s'attendait à ce que le pouvoir agrée un parti à connotation religieuse. D'autant plus que tout le monde en Algérie sait la radicalité du discours islamiste. Depuis les années 70 et 80, nous savions tout du courant islamiste. Menace totalitaire, très connue, hein, menace sur les libertés, menace sur les femmes particulièrement, sur les femmes. Et donc, et on savait aussi qu'ils allaient certainement être relayés par des puissances
étrangères,
amies, hein, entre guillemets, Arabie Saoudite et compagnie. Donc pourquoi, la question qui se pose dès ce moment-là, dès 89, pourquoi avoir légalisé un parti islamiste alors qu'on savait pertinemment que ça pouvait être effectivement un élément complètement disruptif par rapport au reste du programme. Et donc, vous aviez des socialistes, le FFS, vous aviez des nationalistes, vous aviez le FLN, vous aviez des patriotistes, vous avez des trotskistes, Madame Louisa Hanoun, etc. Vous avez toutes sortes de partis politiques, mais on y ajoute...
Il y avait donc quand même une assez grande liberté politique.
Très grande diversité après 88. Hein, ça a duré très peu, hein, puisque la décennie noire va justement commencer par nous bloquer toute cette... Alors, j'insiste pour le fils, pas le fils. Dès le départ, donc, même avant qu'il soit agréé, il disait toujours que, pour lui, il n'y a pas de charte, il n'y a pas de constitution. Il faut écouter ce que dit Allah et ce que dit le prophète. Hein. C'est un slogan que tous les Algériens connaissent. La mithar, la doustour, qal Allah, qal Rasoul. Hein, c'est crispant, du coup. Alors qu'on vient de rentrer dans une période démocratique. Alors, pourquoi est-ce que ce parti va prospérer immédiatement? Alors, il prospère parce que d'abord, il dispose de moyens financiers absolument extraordinaires. Ils ont des moyens financiers.
Il a un nom, ce parti, de suite?
Le Front islamique du salut.
Tout de suite, c'est le fils.
C'est le fils, le Front islamique du salut, qui est en fait la suite d'autres courants qui existaient avant, mais le Front islamique du salut, et beaucoup d'islamistes de courants très différents vont se réunir pour créer le Front islamique du salut. Bon, on saura par la suite que les gens qui ont constitué le FIS sont souvent infiltrés par la sécurité militaire. Mais enfin, le mouvement est créé. Et donc, un, le moyen financier extraordinaire. On était à l'université, nous, à l'époque. Et les étudiants islamistes avaient des moyens, des sonos que l'université n'avait pas. Mmh. Ils avaient des moyens absolument incroyables. Deuxièmement, la couverture médiatique, par la presse occidentale particulièrement, est absolument exceptionnelle. Tous les journalistes qui venaient, n'avaient d'yeux et d'oreilles que pour les gens du FIS. La presse française particulièrement, Libération, qui avait José Garçon comme correspondant à Alger, n'avait d'yeux que pour les islamistes, il n'avait pas d'yeux pour les autres partis politiques qui étaient là, qui animaient la vie démocratique du pays, donc ça n'intéressait personne.
En s'appuyant sur quoi, Bachir? En disant que bon, le pouvoir depuis 62 était corrompu, immobiliste, qu'est-ce qui faisait que justement il y a eu cet engouement pour le FIS?
Alors justement, la troisième raison du succès, c'est le fait que les gens s'engouffrent dans ce parti parce qu'ils pensent qu'ils vont plus sanctionner le FLN qu'adhérer à une idéologie nouvelle. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a une différence entre le nombre de voix de gens qui votent pour le FIS en 90 pour les élections municipales et le nombre de voix qui vont voter pour le FIS, pour le même parti, aux élections législatives un an et demi après.
Ça me rappelle d'autres choses ici aussi.
Ben oui, bien sûr. Et donc, du coup, ce qui nous a, nous, beaucoup frustrés, c'est effectivement que la presse occidentale a participé à augmenter, à amplifier la couverture médiatique du phénomène. Donc, Latifa m'a raconté effectivement qu'elles étaient en réunion, les femmes étaient en réunion pendant cette période-là, et les journalistes de France 2, je crois, de TF1, de France 2 ou TF1, elles n'avaient pas d'yeux pour les autres femmes, les grands leaders, les grandes femmes leaders, comme Khalida Messaoudi, Louisa Hanoun. Non. Il y avait deux femmes voilées. Rapidement, on a été mettre la focale dessus, et donc on les a interrogées. Donc, nous arrivons aux élections de 91, les élections législatives de 91, en rappelant que le FIS a gagné les élections municipales de 90. Donc, les gens du FIS ont gagné les élections municipales, et donc nous préparons effectivement les élections législatives. Et au moment où les autorités militaires et civiles se rendent compte que le deuxième tour va être effectivement un raz-de-marée pour le FIS, une partie de la classe politique va décider de faire marche arrière. Donc alors qu'ils auraient dû ne pas agréer le FIS, et puis c'est tout, on n'aurait pas eu toute cette histoire. Bon. Maintenant que le FIS a été agréé, qu'ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas finalement le manipuler autant qu'ils auraient voulu le manipuler, et le FIS va arriver à gagner les élections législatives et donc à avoir effectivement le Parlement. Et rapidement, les gens se rendent compte que le risque, c'est que l'Algérie devienne l'Afghanistan, le Soudan, l'Iran, l'Arabie Saoudite, la Mauritanie, enfin tous les États théocratiques, les États islamistes.
Oui.
Et donc la classe politique réagit. Les militaires comprennent aussi que ce n'est pas peut-être dans leur intérêt d'avoir des islamistes au pouvoir. Et donc rapidement, la société civile. Je reconnais que, en partie manipulée par des militaires, réagit. Donc, la centrale syndicale, les associations féminines, beaucoup de gens vont se mobiliser. Et avec argument principal, c'est l'islamisme n'est pas une aventure quelconque. C'est une aventure politique sans retour. On voit l'Iran, on voit l'Afghanistan.
Oui,
on voit tous ces pays qui sont sombrés dans un régime islamiste. Effectivement, ils n'en sont pas revenus. Et donc, il faut comprendre que toutes les libertés sont définitivement perdues. Alors, particulièrement les femmes. Les femmes, donc, sont les victimes potentielles et symboliques, d'ailleurs, de la violence du discours islamiste dès le départ. Même si leurs propos ont été manipulés aussi par la presse ou par certains militaires, il n'en demeure pas moins que dans l'idéologie, le scud dur des islamistes, c'est effectivement une lutte contre les femmes, une lutte contre les libertés, en pensant que... Parce qu'on n'accepte pas de balancer facilement comme ça dans un régime
totalitaire.
Oui. Donc, les gens réagissent. Ça m'a rappelé effectivement la une de Libé en 2002, lorsque le Front National, donc avec Jean-Marie Le Pen, était sur le point d'aller gagner les élections au deuxième tour. Et que les gens mobilisaient à 82% pour...
C'est pour ça, quand vous dites qu'ils ont plus voté contre le FLN que pour le FIS, je pense que c'est le cas aujourd'hui en France.
Exactement.
Les gens votent pour le Front National pour dire non aux
autres. Donc Libé avait fait une qui nous avait beaucoup choqués, nous, non au fascisme. Alors nous, quand on l'avait dit en 91 en disant « Mais attendez, on ne peut pas accepter que le fils passe au pouvoir. » Parce que c'est un régime définitivement attentatoire aux libertés, etc. Eh bien, on nous a dit « Non, non, vous êtes des éradicateurs, vous avez été manipulés par les militaires, etc. » Et pourtant, en France, la presse française, Le Monde, etc., avait dit... Alors, il faut dire aussi que les femmes ont joué un rôle important. C'est important d'accorder un peu de place pour les femmes parce qu'elles ont joué un rôle important dans la mobilisation. Je me rappelle avoir assisté à la manifestation de 94 où on a tiré une balle sur la manif qui devait avoir lieu. Donc, on avait tiré sur Saïd Saadi, le patron du RCD. Et nous, on était en bas de manif. Et donc, on s'est tous couchés quand on avait entendu la... Voilà. Et ce sont les femmes qui nous ont relevés. Ils nous ont dit, mais levez-vous, levez-vous, il faut continuer la marche. Je veux dire, là, elles ont joué un rôle absolument important dans la mobilisation, l'action, etc. Donc, Luisa Hannoun, par exemple, qui est toujours très connue, qui est la responsable du parti trotskiste, le parti des travailleurs. Khalida Messaoudi, qui a été une militante féminine, très féministe, très connue, qui a même fini dans un parti politique. Et en plus, c'est aussi Leila Slaoui, magistrate, qui a été très courageuse, qui a pris des positions laïques, très, très courageuses. Eh bien, le fait qu'il n'y ait pas eu le deuxième tour et que donc les islamistes échouent à arriver au pouvoir, de toute façon, ils disaient qu'eux n'y croyaient pas. Ils disaient que si on gagne demain, il n'y aura pas d'alternance, etc. Si nous, on gagne demain... D'ailleurs, c'est le deuxième argument que tu disais par la société civile. Mais vous allez permettre à des gens d'aller au pouvoir alors qu'ils disent déjà, bon, même d'avoir gagné, que de toute façon, quand ce sera fini, il n'y aura plus d'alternance, il n'y aura plus de démocratie, il n'y aura plus d'élection, puisque c'est Dieu et c'est le prophète qui décide. C'est pas nous qui décidons. Et donc, ils mettent le pays à feu et à sang. Pendant plusieurs années, pendant cette décennie justement importante, des journalistes sont assassinés, des avocats, des magistrats, des écrivains, des poètes, tout. Hein, et puis des milliers de citoyens hein, qui sont effectivement victimes d'attentats terribles dans toutes les villes d'Algérie, dans toutes les régions, aussi bien dans les villes que dans la campagne, pendant un certain nombre d'années. Et donc l'armée, donc il va devoir résister à ces maquis, qui sont puissamment armés d'ailleurs, par leurs grands amis du Golfe et de l'Arabie Saoudite, l'armée devra effectivement éradiquer ce...
Donc c'est une guerre...
C'est une guerre qui a effectivement...
Qui se passe comment alors
Des groupes islamistes.
Voilà.
C'est des groupes islamistes, ne sont pas des groupes de Mozabites ou de Kabyles ou des gens de Constantine, pas du tout. Ce sont des militants politiques qui sont... C'est pour ça que je dis que ce n'est pas une guerre civile. C'est un mouvement politique qui n'accepte pas la décision qui a été prise par l'armée.
Terroriste, on peut dire ça, Bachir ?
Ah oui, bien sûr. C'est un mouvement terroriste. Parce qu'ils ont
Donc ils vont dans les villages, ils font des actions.
Ils tuent des gens.
Ils sèment la terreur.
Tous les gens dont ils ont les noms, etc., ils les tuent froidement.
Et en touchant d'abord...
Dans leur famille. Hein, dans leur famille.
Voilà, en touchant peut-être déjà aussi les gens qui avaient une parole démocratique de préférence.
Ils ont d'abord ciblé
ces gens-là.
Le patron du syndicat national, hein, Abdelhak Ben Hamouda, a été l'une des premières victimes. Parce que la centrale syndicale, c'est l'ennemi, effectivement, de tous ces gens qui veulent absolument gagner cette bataille. Et donc, pendant cette période-là, je veux signaler quand même que les pays occidentaux, Paris, Londres, Washington, accueillent allègrement les chefs islamistes, leur donnent droit à la parole, etc. Ils les protègent même, ils les accueillent, alors qu'ils tiennent un discours tout à fait différent par rapport aux démocrates. Par exemple, lorsque des médecins et des journalistes sont assassinés entre 1993 et 1994, c'est Le Monde, le grand journal Le Monde, qui dit que ces gens qui ont été assassinés sont des complices du pouvoir. C'est grave, parce que... Il s'agit de gens que nous connaissons parfaitement, qui n'ont jamais été des élateurs du pouvoir ou des amis du pouvoir. Ce sont des opposants aux convictions démocratiques connues.
Donc, et il n'y a jamais eu d'excuses de la part de la presse après
La presse française, la correspondante du Monde de Libération, José Garçon, a écrit pire. A écrit pire en disant que ceux qui sont tués, effectivement, méritent cela parce qu'ils ont choisi d'être des appointés de l'armée. Alors qu'en fait, fin 91, le sentiment de crainte que les islamistes arrivent au pouvoir avec une majorité absolue au Parlement, c'est tout le monde qui en a peur, pas que les militaires. Les militaires certainement ont peur, mais les civils aussi ont peur, les femmes ont peur, les syndicalistes ont peur, les professeurs ont peur, tout le monde a peur. Regardez ce qui passe actuellement en Afghanistan.
C'est vraiment 10 ans où il y a une chape de terreur sur la ville.
Ce qui nous menaçait, c'est la situation qu'il y a aujourd'hui en Iran ou en Afghanistan. On vous envoie pour 10 ans de prison parce que vous avez mal porté votre voile ou parce que vous avez laissé votre fille sortir à l'école. Donc, les gens ont peur de ça. Ce que ne comprennent pas les journalistes français, c'est que c'est une crainte légitime. On a légitimement peur d'aller vers un chaos pareil. Et donc, quitte à effectivement s'allier avec l'armée,
c'est encore mieux.
C'est pas une armée étrangère, c'est une armée nationale. Donc, si l'armée veut bien comprendre qu'effectivement il y a danger, ils n'avaient pas compris ça avant.
Parce que c'est les partis démocrates. Une armée laïque, comme en Irak.
Mais laïque en général, laïque en général, bien sûr. Il n'y a pas d'expression religieuse dans l'armée. C'est une armée nationale. Et donc, on leur avait expliqué ça depuis 89. Depuis 89, la presse nationale qui est sortie, donc démocratique, la Watan, Liberté, etc., n'arrêtait pas de dire mais attendez, regardez où ça nous amenait. On a un poison dans la société, effectivement. Il faut absolument que les gens comprennent que la religion n'est pas du tout. N'est pas une opinion politique. C'est une opinion personnelle, etc. Et que donc, il faut aller vers une clarification des objectifs de chaque parti politique. Et le FUIS, qui est manifestement soutenu par des puissances étrangères qui nous veulent du bien, hein, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, etc., il faut absolument l'arrêter. Eh bien, la presse occidentale n'a pas du tout compris ça. Et donc, l'Algérie va donc perdre effectivement des milliers de cadres, hein, des gens qui, effrayés par l'impunité et puis par l'importance de ces groupes islamistes qui vont tuer des gens partout.
On va marquer une pause musicale, Bachir, qui a été choisie. Alors, c'est par Latifa. Peut-être dire le nom de ce qu'on va écouter. Dans le micro.
Dardari par El Bandia Social Club.
Et ben voilà, on écoute et on se retrouve tout de suite après.
60 شريط دار في عجنان بلا الاسوار نسقي بدم الاحرار دار داري من الفرحه انسى بدات تولول قلت نبنيها من الاول شهد ربي كنت مول دار داري والدار داري قدام الجنان عندي بحرا مر داري عندي صحراء في وسطها الجبال دايرة والدار داري عندي فيها من كل خير كي نعطش نشرب من البير الناس كي تشوفني فيها تغير والدار داري دار داري دار داري
قلت نبداها بالجاردينة نغرسها نرجع حزينة نغرس وريدة وياسمينة والدار داري بديت بكري في الصبحية قلت نديرها زراعية تلفت لي بالعربية والدار داري دار داري
فوتنا يا ما تملح مجناني نقطف في التفاح في الطبلة نتقسمو الفرح والدار داري عشنا بقدر روح رمى عيلة كبيرة ملمومة عطونا ماكلة مسمومة والدار داري دار داري دار داري
الخوا بداو ينوضو حبوا رايهم يفرضوا في داري طفاو الضو والدار داري طهوا عليا بالقزول ولادي عن بالهم جا الغول كي شافوا خوهم مقتول والدار داري والدار داري
حرام من داك جاني خدام جرفت في يدو حمام ابدا هادي بالسلام والدار داري قالي خوك هذا اسمح له بابك لازم تفتح له شوية من الرزق اكتب له دار داري دار داري دار داري
قالي نعاود لك الاسوار قيمتها شوية دينار قريب ريب ريقا عطار الدار داري جاب حبابه في لما هلكوني وخلوني تما انا ولادي في غمات دار داري
دار داري.
Toujours sur Radio FM+, dans La Belle Rencontre. Belle rencontre avec Yann à la technique qui nous accompagne aujourd'hui et en compagnie de Bachir Dahak. Bachir, on va repartir en 93 pour revenir sur ce qui s'est vraiment passé aussi dans les rapports politiques, économiques à cette période. Puisque juste avant de vous laisser la parole, je voudrais quand même rappeler quelque chose. Je ne voudrais pas l'oublier, je ne voudrais pas que le temps nous manque pour le redire. Cette guerre, qui n'est pas une guerre civile...
Bien.
C'est un bilan aussi en termes de morts. En 10 ans, il y a, alors les chiffres les plus petits, c'est 60 000, mais on s'accorde plus entre 150 et 200 000 morts, des milliers de disparus, presque 1 million de personnes déplacées, des dizaines de milliers d'exilés et 20 milliards de dollars de dégâts. Donc de quoi quand même ? Et ça ne fait que 20 ans, ce bilan-là. De quoi détruire complètement un pays ? Donc voilà, si vous voulez revenir aussi sur toutes ces... cette partie-là de la guerre, c'est fort intéressant.
Alors, moi, ce que je veux expliquer, c'est le contexte général dans lequel nous sommes pendant cette décennie noire. Ouais. Nous sommes en train de sortir d'une économie socialiste publique et nous sommes en transition. Depuis la mort de Boumediene, depuis le début des années 80, nous sommes dans un processus de libéralisation de l'économie nationale. Et donc, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'appétit, les privés, qui sont derrière et qui s'activent pour effectivement que on libéralise le plus vite possible, qu'on privatise le plus vite possible et qu'il y ait des transferts. Et donc, il y a effectivement une bataille très sourde derrière. Les gens qui manipulent ces groupes islamistes sont parfois dans l'État algérien, hein, mais en même temps des gens qui sont extérieurs, des groupes d'intérêt, les barons de l'import-export, les barons de la drogue, les barons de plein de choses, plein de
ceux qui voient aussi leur équilibre économique,
voilà, qui veulent essayer effectivement de faire vaciller cet État public puissant et de laisser passer des secteurs énormes dans le secteur privé. D'ailleurs, ils sont tellement prêts à ce point-là qu'en 92, lorsqu'on a décidé de faire arrêter, de faire démissionner le président Chadli, qui était président à l'époque, on a fait venir un historique de l'Algérie, c'est le président Boudiaf. On a fait venir du Maroc, tout ça, c'est un ancien, c'est la carte numéro 1 du FLN, hein, c'est un fondateur du FLN, c'est un mouvement important. Les Algériens vont avoir pour la première fois une espèce de rencontre avec un chef qui parle comme eux. Hein, c'est plus du tout les autres présidents qui étaient là avec une langue un peu... Mais lui, là, il parle effectivement la langue du peuple. Il y a une espèce de communion immédiate entre le peuple et le président. Eh bien, il a été assassiné à ciel ouvert le 29 juin 1992. Pourquoi ? Parce qu'il avait dit qu'il était révulsé par la mafia politico-financière. Il avait rapidement compris, aux 4 mois, que l'Algérie était effectivement prise en charge par une mafia politico-financière, aussi bien donc des gens qui étaient dans l'État que des groupes d'intérêt qui étaient à l'extérieur. Parce que tous ces clans militaires et civils s'apprêtent effectivement à recevoir une partie du gâteau, parce que l'Algérie, c'est quand même un grand pays, de grands secteurs économiques qui sont en main de l'État. Et donc, on va la première thèse, c'est de dire que, qui est celle-là, hein, c'est de dire qu'effectivement, pour que les clans puissants puissent s'assurer les meilleures parts du gâteau, eh bien, il ne faudrait pas qu'il y ait de riposte sociale. Il ne faut pas qu'il y ait de syndicats qui protestent, d'intellectuels qui protestent, de journaux, presse, qui, etc. Donc, on va essayer de faire table rase de tout ça en développant, effectivement, en laissant se développer un climat terroriste. Donc, au point que cette thèse est celle de gens qui disent qu'il y a quand même pas mal de liens entre les groupes islamistes, hein, surtout les GIA particulièrement, ceux que vous avez...
j'avais toute une liste, voilà.
C'est ça, la liste, le GSPC, le MIA, voilà. Tout ça, tous issus du FIS. Et donc, dans chacun de ces groupes, il y a des manipulations, des fils à la patte qui remontent à divers groupes d'intérêts qui veulent qu'il y ait le chaos. Et pour qu'il y ait le chaos et pour que le partage soit fait à leur profit, eh bien, effectivement, il ne faut pas qu'il y ait de résistance sociale. Donc, le syndicat est rapidement éliminé. Le syndicat, on assassine directement son secrétaire général. Et donc, après, tous les syndicalistes sont éliminés.
Ils n'ont pas été protégés, l'armée ne leur mettait pas des protections quand même, parce qu'ils savaient qu'ils étaient
risqués. Oui, mais il faut croire que l'armée a protégé plutôt les siens que les autres. Hein. Ouais, l'armée, ouais. D'ailleurs, on dit dans cette thèse-là, on dit que c'est quand même curieux que ces gens qui ont tué partout n'ont jamais touché aux généraux, mm-hmm. n'ont jamais touché à leurs biens, ni à leurs familles, ni à leurs usines, ni à leurs... comme par hasard, tous les militaires ont échappé, enfin les biens ont échappé ouais. d'abord physiquement et leurs biens aussi. Ont échappé alors que les islamistes sont en train de faire un carnage partout. Mmh. Donc il y a quelque part cette thèse qui dit effectivement qu'il y a beaucoup de clans qui ont manipulé, qui ont dirigé ces islamistes. À tel titre qu'aujourd'hui, par exemple, quelques années après la fin de la décennie noire, on a vu que des grands islamistes terroristes très connus, Blida, M. Kertali, du côté au milieu de l'Algérie, M. Ben Chérifa ou Ben Chérif, je ne sais pas comment il s'appelait. Enfin bref, des grands islamistes, grands terroristes, qui sont aujourd'hui milliardaires. Mm-hmm. Un certain Benzerga, militaire, qui a même reconnu à la télévision avoir égorgé un militaire, un appelé. Ce sont des gens qui ont amassé des fortunes considérables. Tout ça renforce l'idée qu'effectivement, il y a eu comme un plan, comme quelque chose qui a échappé à une partie de l'armée. Ça ne veut pas dire que toute l'armée est pourrie, pas du tout.
Oui.
Beaucoup de militaires ont courageusement combattu, beaucoup ont payé de leur vie, bien sûr. Oui. Mais beaucoup de ces gens, effectivement, comment est-ce que les gens ont pu... s'est demandé pourquoi les islamistes, les gens connus, ont échappé à la mort. Hein, beaucoup. Les grands leaders du FIS, par exemple,
sont toujours là.
Il y en a un qui est toujours vivant, l'autre
mort de leur mort.
Voilà, beaucoup.
Bachir, le temps avance et j'aimerais quand même qu'on aborde deux choses. Et d'abord, nous expliquer comment ça s'est arrêté, ce conflit. Parce que bon, il y a plusieurs datations. Hein. On les a vues en préparant l'émission entre 2001 et 2005. Donc j'aimerais avoir votre regard là-dessus. Et puis, avoir un peu longuement, il nous reste 7-8 minutes, sur aujourd'hui, quel regard vous portez 20 ans après ?
Oui.
Qu'est-ce que ça a brisé aussi dans cet élan dans ce pays ? Enfin, moi, je me rappelle, je suis née en 60, dans les années 80, l'Algérie, elle était mise en avant pour son système éducatif, il y avait des facs, que c'était un pays qui s'était vraiment construit après la guerre de...
Tout à fait.
Qui avait une force, bon, bien sûr, qu'il y avait Boumediene, qui était quand même une grosse, grosse personnalité, mais que derrière, c'était un pays qui s'était rebâti. Qu'est-ce que ça a créé, cet arrêt de la vie pendant 10 ans ? Donc, deux questions. Un, qu'est-ce qui a arrêté ? Et puis aujourd'hui, votre regard 20 ans après, Bachir.
Alors, ce qui a arrêté tout ça, c'est effectivement des rencontres officielles entre les responsables militaires et les responsables du FIS. On a même vu des généraux partir au maquis, négocier avec une partie de l'ALS, c'est-à-dire l'Armée de Libération Islamique, l'AIS, l'Armée du FIS. On a vu des militaires aller dans la cellule de prison de Abassi Madani, le patron du FIS, négocier avec lui, le président de la République, celui de 95. Donc on a vu toutes les autorités ont tout fait pour finalement rattraper un peu leur bêtise, en essayant de retrouver de
bêtise originelle qui était d'avoir laissé créer ce FIS.
Tout à fait, effectivement.
D'accord, j'ai compris.
On a été effectivement négocié, puis on a sorti des lois, malheureusement trop laxistes, puisque ce sont des lois qui portent amnistie en fait.
Mm.
Et donc, on a effectivement amnistié effectivement, tous ces gens qui ont du sang dans les mains, y compris lorsque des preuves importantes existaient contre des personnes qui avaient ouvertement tiré sur des gens ou assassiné ou décapité des familles, etc. Donc, ça, c'est un grand malheur pour le pays, parce qu'effectivement, il aurait fallu qu'on fasse comme en Afrique du Sud, où on fasse effectivement... advenir la vérité en faisant parler les gens qui étaient... Alors que là, non, on décide finalement de pardonner à tous ceux qui descendraient du maquis, qui rendraient leurs armes à l'armée. Et on a même promis à des gens qui étaient des terroristes de rejoindre l'armée.
Ce qui était une gifle quand même pour tous les gens qui avaient été des victimes.
Bien sûr, ça confirme effectivement l'idée que, comme il y a comme un deal, je compare ça avec la Russie par exemple. La Russie a eu aussi une période terrible avec la Tchétchénie entre 1994 et 2002. Et lorsque effectivement tous les oligarques sont nés, tous les toutes les parts économiques de l'économie russe ont été partagées à divers amis de M. Poutine, eh bien, effectivement, on a trouvé le moyen de s'arranger avec avec les Tchétchènes. Eh bien, exactement comme nous, à partir de 99, donc on a 96-99, on a réussi à trouver une solution pour taire les armes, et donc avec une victoire politique pour le fils, puisque effectivement, un, le fils n'a pas disparu complètement, il existe toujours. Deuxièmement, en fait, il n'existe pas en tant que fils, mais enfin, il existe, le courant islamiste existe.
Puis la philosophie, la pensée, elle est là.
Et les chefs islamistes n'ont jamais été embêtés. Voilà. Alors maintenant, le regard qu'on a 20 ans après là-dessus. La meilleure réponse, c'est celle qu'a donnée le Hirak. Le Hirak, c'est ce mouvement qui a démarré en février 2019, et qui a fait que pendant une année et demie après, des millions d'Algériens, à l'est, à l'ouest, au centre, dans les grandes villes, dans les petites villes, dans toute la région du pays, toutes professions confondues, tous âges confondus, femmes et hommes, sont sortis pour manifester et demander effectivement que le régime change. Tous les vendredis. Chaque vendredi, les gens, d'ailleurs, ils ont même inventé un verbe, c'est vendredir. Et donc, c'est pour dire que pendant un an, des millions d'Algériens ont réussi à s'exprimer publiquement, dans la rue, mais avec une particularité importante, c'est aucune violence, absolument aucun dégât.
L'idée de retomber dans la violence, c'était insupportable.
Vous avez tout compris. Donc la réponse qu'on a aujourd'hui, c'est que les deux générations, celle la nôtre, qui a vécu la guerre d'Algérie, qui se rappelle des choses graves, nous avons vu nos parents, nous avons vu, etc. Et celle des gens qui ont 30 ans, les nouvelles générations, qui n'ont qu'en mémoire la décennie noire. Eh bien, ensemble, ces deux générations, parce qu'on avait donné manif, on avait des gens de 60 ans, 70 ans et des gens de 20 ans. Ces jeunes, donc, la mémoire la plus proche qu'ils ont, c'est la violence qu'on a eue pendant la décennie noire. Et donc, il y a une sorte de reconstruction lente de la société hors de la violence. C'est la première réponse que les gens apportent aujourd'hui à cette période dégueulasse qu'on a vécue.
Et il y a eu ça à faire partir en arrière, je sais pas, le monde intellectuel par exemple, tout ça, ces 10 ans ont fait reculer un peu.
Ben oui, bien sûr, ouais, parce qu'on a perdu quand même. On a d'abord perdu une partie importante de nos intellectuels. Les gens importants ont été assassinés. Des psychanalystes, des psychologues, des professeurs d'université, des écrivains, etc. ont disparu. Mais en même temps, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est une véritable régression démocratique. C'est terminé. Les partis politiques ont été plus ou moins verrouillés. La presse n'existe presque plus. Voilà. Donc aujourd'hui, on est presque revenu à la période d'avant 88. Presque.
On pourrait en faire une émission, ça, Bachir, sur ce thème.
Il y a 250 prisonniers politiques, c'est important.
Parce qu'on ne sait pas, ce regard 20 ans après, il vaut peut-être plus que 5 minutes en fin d'émission. Il vaut peut-être le temps d'en parler.
Moi, je suis disposé.
Plus longuement. Voilà.
Donc, aucun problème.
Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne sait pas bien comment voir les dégâts à long terme que ça provoque. La jeunesse, vous parliez des trentenaires, la jeunesse actuelle, elle se sent comment par rapport à tout ça? Les gens qui ont 20 ans, donc qui sont nés, qui n'ont pas connu la décennie, qui sont nés juste après.
Ils ont développé la mobilisation du Hirak, c'est eux qui l'ont animé, c'est eux qui l'ont animé avec un sens de l'humour absolument extraordinaire. Ils disaient par exemple dans leur slogan, en parlant des généraux, nous savons tout de vous, mais vous ne savez rien de nous. C'est une génération nouvelle. La jeunesse d'aujourd'hui, elle fonctionne avec des moyens que nous n'avons pas avant. C'est Internet, c'est le smartphone, etc. Donc, il permet de filmer, etc. Malgré cela, il y a quand même une régression démocratique, puisqu'il y a quand même encore presque 250 prisonniers politiques algériens. Et donc ça, il faut absolument le développer. Amnesty vient de sortir d'ailleurs
un rapport là-dessus,
qui est impressionnant.
Ben voilà un sujet profond pour une autre émission et pour avoir le plaisir de retrouver donc Bachir Daak qui aujourd'hui était venu nous parler de la décennie noire, donc 92-2002 à peu près, et qui va revenir très vite nous parler des jeunes aujourd'hui et de ce que ça peut provoquer à long terme qu'une décennie noire. Merci beaucoup Bachir Daak.
Mais je t'en prie, merci beaucoup.
Merci Latifa d'avoir été là et puis merci Yann de nous avoir enregistrés et à très vite pour une autre belle rencontre. Au revoir.
Les plus belles rencontres sont toujours inattendues. Elles peuvent parfois changer le cours de votre vie.